BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains, en effet, de passer le restant de nos jours. Et la blockchain contient une fraction de l'avenir. On vous en parle chaque vendredi, la blockchain, les crypto-monnaies, avec nos trois experts. Vincent Gann, toujours avec nous. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Owen nous accompagne aussi, bien sûr, Owen Simonin, à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube Asher. Vous pourrez, bien sûr, retrouver les principales saillies des pros des cryptos sur notre fil Twitter dédié, comme chaque semaine. Le fil BFM Crypto. D'abord, quand même, l'évolution des cours des différentes cryptos et notamment du Bitcoin. Vincent, on s'est fait peur, hein, lundi. Stupeur et tremblement. On est passé sous les 40 000 dollars l'espace d'un instant. Ça a craqué pas très longtemps. On est repassé très vite ensuite au-dessus des 40 000 et donc finalement les 40 000 pour l'instant tiennent. Entre ce seuil des 40 000 dollars, celui des 30 000, celui peut-être un jour des 20 000 d'après vous, à quel prix faudra-t-il véritablement accumuler à nouveau des positions acheteuses sur le Bitcoin ?
Oui, et puis même pour ce qu'on appelle les oiseaux de mauvaise augure technique, ceux qui attendent les 15 000 dollars depuis longtemps. Oui, alors effectivement, pour résumer, depuis deux mois, c'est assez frustrant parce que c'est une sorte de glissade baissière pour le cours du Bitcoin et pour le marché des crypto-monnaies en général. Cette glissade baissière, elle a démarré à 65 000 dollars, qui était le record historique du printemps dernier et qui a été le record historique du mois de novembre dernier. Donc en fait, on est bloqué par cette espèce d'énorme résistance technique. Deux mois de glissade baissière, et à chaque fois que le marché se présente sur un support technique, chacun y va de son argumentaire, enfin chacun des analystes, analystes techniques en particulier, ce sera le bon support, 50, 40, 30, 20 000, etc. En fait, chacun peut y aller de son argumentaire, mais au final, le juge de paix sera une séance de rupture haussière. Depuis quelques séances, on se stabilise sur 40 000 dollars. Vous avez parlé d'une séance un peu de décrochage en début de semaine. On a préservé les 40 000 dollars. Préserver les 40 000 dollars, c'est bien, mais sans le combo suivant. Une séance de dépassement de résistance accompagnée d'un réengagement des institutionnels, c'est-à-dire d'une augmentation de leur participation, notamment sur les contrats futurs Bitcoin. On appelle ça l'open interest ou position ouverte. Tant qu'il n'y a pas ce combo sur une séance, eh bien, le marché peut dériver de support en support. Et la résistance à dépasser, ce sont les 45 500 dollars avec du volume. Et là, oui, la réponse sera présente. Donc, pour le moment, il est difficile de trancher entre 40 000 ou 30 et puis pour certains 20. Moi, maintenant, je vais vous donner mon scénario à moi, hein, qui est parfaitement subjectif. Et je pense qu'il ne faut pas tuer tout de suite le niveau des 40 000 dollars. Il a une importance. Et je pense qu'il pourrait agir favorablement. En tout cas, bon, au-delà de cet avis subjectif, retenez une chose, il faut dépasser une résistance avec du volume. Sans ça, les supports seront atteints les uns après les autres.
Oui, parce qu'on est quand même sur une forme de toboggan, de glissade baissière depuis deux mois sur un certain nombre de cryptos, en tout cas le Bitcoin. Exactement. Quel facteur fondamental, en l'occurrence, pourrait, d'après vous, interrompre cette glissade ?
Oui, alors il y a plusieurs. Alors déjà, il y a des facteurs qui concernent l'environnement des crypto-monnaies en général. Je dirais du côté de la régulation. Il y a eu une dynamique en octobre-novembre dernier. Vous savez, quand les premiers ETF Bitcoin basés sur les contrats futurs Bitcoin à la bourse de Chicago avaient été validés aux États-Unis. On attend maintenant par le régulateur américain, en janvier-février, on attend de nouvelles ou pas validations. Donc ça pourra agir. Ça, c'est le premier aspect. Si de nouveaux ETF étaient validés par la SEC, la SEC, le régulateur aux États-Unis, boursier, ça pourrait permettre ce type de séance de rupture haussière. Alors maintenant, il y a tous les thèmes du moment, l'inflation, la remontée des taux d'intérêt sur fonds de resserrement monétaire des banques centrales, ou même le risque systémique qui, pour certains, verrait dans Bitcoin une valeur refuge. Ça, moi, j'y crois moins. La remontée des taux, c'est nuisible à toutes les classes d'actifs, sauf aux contrats obligataires. Donc les actifs risqués en souffrent. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Il y a une corrélation intraday aujourd'hui positive entre le marché action et le cours du Bitcoin. Par contre, il y a cette thématique de l'inflation. Si elle devait rester hors de contrôle, je pense que ça peut être favorable à la hausse du cours des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin et de l'Ether.
On va suivre tout cela. Vous restez avec nous, bien sûr, Vincent, tout au long de cet épisode, ce nouvel épisode, le 46e des pros des cryptos. Blackout ! La semaine dernière, oui, était marquée par un blackout. C'était au Kazakhstan, cette coupure d'Internet au Kazakhstan qui a provoqué la chute du hash rate, la puissance de calcul du réseau, d'environ 14% sur le Bitcoin. Claire, concrètement, quelles conséquences voyez-vous de cette chute du hash rate sur le Bitcoin ?
Alors, une chute du hash rate, en général, la conséquence, c'est donc qu'il y a moins de puissance de calcul sur le réseau pour valider les blocs de transactions. Et donc, en toute logique, les blocs de transactions mettent un peu plus de temps à être validés. Vous savez que sur Bitcoin, c'est environ 10 minutes pour valider un bloc. Donc, si on a moins de puissance de calcul, ben, on peut imaginer qu'on passe de 10 minutes à 11 ou à 12 en moyenne. Heureusement, tout ceci est prévu par le protocole Bitcoin. Et donc, il y a un réajustement qui se fait tous les 2016 blocs environ. Donc, tous les 2016 blocs, toutes les deux semaines environ. Et donc, le système est prévu pour ça et complètement résilient. Maintenant, sur cet événement au Kazakhstan, moi, j'ai été regarder les courbes. C'est pas très marquant. On n'est pas sur un événement massif comme ce qu'on avait pu voir en Chine. Mais de toute façon, même si on était sur une chute plus importante et plus durable, le système aurait été résilient et aurait pu se remettre assez facilement de cette chute.
On essaie de comprendre, parce que si un phénomène similaire venait à se reproduire, un homme averti en vaut deux, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre et de revenir sur ce qui s'est passé au Kazakhstan. D'ailleurs, quel intérêt, Owen, les mineurs trouvent-ils à aller au Kazakhstan ?
Alors, il y a différents intérêts, hein, et globalement, chaque entreprise qui se déplace va négocier ses propres conditions d'installation et va trouver, bien entendu, son intérêt avant de s'installer. En attendant, il y en a qui touchent à peu près la plupart des entreprises. Premièrement, c'est les bas coûts d'électricité. Évidemment, comme c'est le seul poste de dépense d'une société de minage, l'objectif étant de diminuer le coût énergétique. En plus de ça, comme il y avait des surplus énergétiques dans la région, ou du moins des exploitations de gaz, font que naturellement, c'était intéressant pour le gouvernement du Kazakhstan de faire des propositions. Donc il y a le gouvernement qui a proposé des accords et qui a même mis en place des endroits organisés pour les mineurs où ils doivent s'installer dans certaines conditions. Et en plus de ça, la proximité avec la Chine. La proximité avec la Chine, pourquoi ? Comme la Chine a interdit le minage de crypto-monnaies et qu'on est dans un monde où le temps vaut de l'argent, c'est vrai plus que jamais, surtout quand on a sa machine mise à disposition, on sait que si elle est connectée à l'électricité et au réseau, elle va nous apporter tant par heure, on va devoir réagir à l'interdiction de son pays, donc en l'occurrence la Chine, et essayer de reloger nos machines le plus rapidement possible à moindre coût. Et donc naturellement, une province qui a prévu des endroits exprès pour le minage, qui est prête, du coup un gouvernement qui est prêt à ouvrir le débat et à proposer des conditions alléchantes aux mineurs, et qui en plus de ça se trouve à proximité, en tout cas beaucoup plus que d'autres territoires de la Chine, c'était l'endroit parfait pour installer des mineurs.
Ok, l'intérêt donc d'aller au Kazakhstan, si tout y devient néanmoins plus compliqué, est-ce qu'on voit d'ores et déjà point d'autres alternatives pour les mineurs, si au Kazakhstan ça se complique?
Alors, en fait, il y a toujours des opportunités, dans le sens où on peut trouver par point. Généralement, ce sera par recherche géographique. C'est très souvent la position qui va déterminer si c'est intéressant ou pas. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir du coup opérer des fermes de minage à l'autre bout de la planète. Et en fonction de la taille de la ferme de minage, il va falloir déplacer des équipes et donc des gens qui vont rester opérationnels sur le site. Si on n'arrive pas à prendre des prestataires, on va devoir du coup déplacer une partie de ces équipes. Et donc la position va être importante. En attendant, il y a des occasions partout. Généralement, l'électricité la moins chère, et on le voit dès qu'on parle de la consommation du Bitcoin, est très souvent de l'énergie verte et de l'énergie renouvelable, mais qui se trouve dans une certaine contrainte géographique. Parce que si c'était de l'énergie renouvelable à proximité d'une ville, généralement c'est très facile de dépenser cette énergie. Je donne un autre parallèle, ce n'est pas pour donner un endroit géographique en particulier, mais c'est pour donner un domaine d'activité. Je prends l'exemple par exemple des barrages hydroélectriques. Un barrage hydroélectrique va, en fonction de l'eau qu'il est capable de capter, générer de l'électricité de par le mouvement de cette eau qui va le traverser, très simplement. La particularité, c'est que en été, il y a moins d'eau, généralement, mais en hiver, il y en a beaucoup plus. Des fois, bien plus d'eau que la génération nécessaire d'électricité. C'est-à-dire qu'on peut, en captant la moitié de l'eau qui passe dans le barrage, fournir toute la demande énergétique des villages à proximité. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les créateurs des barrages n'ont que deux possibilités. Soit ils arrivent à autoconsommer sur place le surplus, et à ce moment-là, toute l'eau passe dans le barrage, on génère un surplus d'électricité, et ça peut être intéressant non seulement d'alimenter les villages, mais également d'alimenter une ferme qui aurait été installée sur place, une ferme de minage de crypto-monnaie, soit prendre la décision de faire passer l'eau au-dessus du barrage, donc de ne pas l'exploiter pour générer de l'électricité. Et à ce moment-là, c'est un manque à gagner. Donc en fait, ça va dépendre de plein de petits détails qui font que de temps à autre, on peut avoir des sources naturelles d'électricité, justifiant ainsi un faible coût électrique, puisque la personne générant cette électricité n'a qu'une seule choix, soit trouver un nouveau preneur, même à moindre coût, soit ne pas générer cette électricité avec une ressource naturelle et une ressource naturelle et donc une ressource gratuite.
Voilà, et un clin d'œil à Sébastien Gouspillou, spécialiste du minage et qui écoute très très régulièrement et avec beaucoup d'intensité l'antenne de BFM Business. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Grâce à vous deux, les cryptos trouvent donc un sens sur BFM Business auprès d'un public plus large, offrir les clés par des mots clairs. Cette semaine, airdrop. On entend de plus en plus parler d'airdrop. Dessine-moi un airdrop. C'est quoi un airdrop, Claire ?
Alors, un airdrop, c'est le fait de donner des tokens gratuitement à des tiers, à des détenteurs de crypto. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est quand vous créez un nouveau token, une des manières de vous faire connaître, c'est d'aller distribuer ce token, ou en tout cas une partie des tokens que vous avez créés, à la communauté crypto. Donc, il va y avoir potentiellement un certain nombre de conditions. Vous allez regarder quelles sont les adresses qui détiennent beaucoup de crypto ou quelles sont les adresses qui ont fait tel type de transaction. Vous allez en sélectionner certaines et puis vous allez faire un airdrop et donc leur distribuer le token que vous êtes en train de créer. Donc, c'est une forme de cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau complètement désintéressé, puisque forcément, les gens qui vont recevoir votre airdrop, votre nouveau token, vont être incités à aller regarder ce que c'est, vont être incités potentiellement à en faire de la pub à leurs amis. Donc, ça va devenir des sortes d'ambassadeurs de votre projet. Donc, c'est quelque part une sorte d'opération marketing ou une manière de faire de l'acquisition client.
Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Quel est l'intérêt de donner de la crypto gratuitement, Owen, aux gens? Quel est l'intérêt et qui a intérêt à ça?
Alors, il y a plusieurs intérêts. Le premier, Claire vient de le souligner, c'est l'aspect marketing. Si je vous parle d'une crypto-monnaie maintenant à l'antenne que personne ne connaît, je suis pas sûr que vous soyez très intéressé. Peut-être que son activité va vous plaire et va vous donner envie de vous y pencher. Par contre, je suis certain d'une chose. Si je vous explique que vous en avez 1 500 € gratuitement en remplissant un petit formulaire et en vous connectant à un site internet, quelque chose me dit que beaucoup de gens qui nous écoutent vont faire la démarche justement de se renseigner et de remplir ce petit formulaire afin de récupérer leurs 1 500 € de crypto-monnaie gratuite. Il est là le premier intérêt. C'est le marketing, ça permet de toucher et quand il y a une ressource financière gratuite au bout, naturellement, les gens y mettent de l'intérêt. C'est très très drôle, mais on voit ça également sur certains très gros sites comme par exemple, qui vous propose simplement de vous renseigner 2 ou 3 minutes sur un nouveau projet en échange de quelques dollars de ce projet. Donc c'est assez fou, mais c'est quelque chose qui est très utilisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une récompense. C'est-à-dire que comme la blockchain est transparente, on peut voir quand on émet un nouveau protocole décentralisé qui est-ce qui l'utilise. Et donc généralement, quand il y a un nouveau protocole qui crée sa crypto-monnaie, il va en distribuer de façon plus ou moins équitable à toutes les personnes qui ont utilisé son réseau. Une sorte de façon de récompenser et de remercier tous les gens qui ont rendu l'initiative possible et qui lui ont porté intérêt avant même qu'une crypto-monnaie existe. Et le dernier pan du coup de cet intérêt, ça va être la distribution de la gouvernance. En effet, dans une entreprise, ce sont les actionnaires qui prennent les décisions. Donc il y a en effet un intérêt d'avoir une part de l'entreprise pour les revenus qu'elle va générer, mais également sur la prise de décision et de responsabilité. Eh bien, dans le monde de la blockchain, certains organismes décentralisés ne sont pas dirigés par une entreprise, mais ont malgré tout besoin de personnes capables de prendre des décisions. Qui de mieux pour prendre des décisions décentralisées et démocratiques que de distribuer une partie de ces jetons qui représente de la valeur, mais également un droit de vote à tous les gens qui utilisent ce protocole. Ce qui permet aux gens qui l'utilisent le plus d'avoir le plus de droits de vote et donc de prendre les décisions les plus adaptées pour le projet. Ça permet donc de récompenser, de faire du bruit et de faire parler de son protocole, mais aussi de distribuer la gouvernance pour que ce système puisse devenir dirigé par tous ses utilisateurs.
Quelques-uns des enjeux autour des airdrops. Vous parliez de liberté, de décentralisation, et c'est vrai qu'on adosse souvent les crypto-monnaies à ces notions de liberté, de décentralisation, notamment le Bitcoin, la séparation de la monnaie et de l'État, disent certains. Sauf qu'il y aura bientôt peut-être des arroseurs arrosés dans cette histoire, avec la montée en puissance quand même en face des monnaies numériques de banques centrales, les MNBC, et elles avancent. Ces MNBC, elles sont très très centralisées, elles. ConsenSys et Visa sont en train de travailler sur les MNBC. Visa a même dit en 2021 vouloir aider au développement des MNBC et leur intégration avec les blockchains publics. Que révèle cet intérêt, Owen, de Visa pour les monnaies numériques de banque centrale ?
Alors, déjà, ça révèle plein de choses. Déjà, ça révèle une inversion de tendance. Il y avait une époque où s'intéresser aux crypto-monnaies, c'était dangereux. C'est-à-dire que la plupart des grosses entreprises et des institutions ne voulaient pas. Aujourd'hui, et je le rappelle, dans la dernière émission, on a vraiment parlé du coup de ce fameux bras de fer qui oppose Mastercard, qui est en train de s'axer pleinement dans les crypto-monnaies et dans le développement de solutions de paiement dans les crypto-monnaies, à Visa, qui est également intéressé par les crypto-monnaies, qui a déjà fait quelques investissements, mais qui avance plus timidement. Donc ça semble être une réponse, ou du moins, encore une fois, un geste que Visa fait pour expliquer que le marché de la crypto-monnaie est un marché à saisir. Après, on n'est pas trop surpris. Visa, c'est l'un des plus gros réseaux de paiement au monde. Le fait de savoir qu'il y a des crypto-monnaies et qu'il y a de grosses transactions de paiement, ça intéresse naturellement le géant. Mais le fait de savoir que les États, et que du coup, en l'occurrence l'Union européenne, les États-Unis avec le dollar et même la Chine se lancent donc sur des monnaies numériques de banque centrale, ça va être du coup, du moins sur une tangente que l'on peut prévoir et sur l'avenir, le gros des transactions, ou du moins une grosse partie de ces transactions. Il est donc pas très surprenant que Visa se positionne et réalise une communication pour dire « nous, on s'y intéresse et nous, on a une compétence », puisqu'il propose carrément d'aider du coup les banques centrales à construire des liens entre les nouvelles monnaies de banque centrale et ces fameuses blockchains publiques comme Bitcoin, Ether, etc. La petite chose qui me fait doucement sourire, c'est que je ne suis pas certain, même si les banques centrale ait besoin de cette expertise et même si Visa est capable de l'apporter, je ne suis pas certain qu'il y ait une vraie volonté de construire des monnaies numériques de banque centrale qui puissent communiquer avec les blockchains libres et décentralisées que nous connaissons aujourd'hui.
Vous gardez un léger doute. On va aller plus loin encore d'ailleurs pour les investisseurs en crypto qui souvent se servent des stablecoins par exemple pour venir, on va dire, préserver, protéger des plus-values. Est-ce que les monnaies numériques claires de banque centrale pourraient mettre en danger ces stablecoins, les USDT, les USDC, le DAI, les UST, est-ce que tout ça risque d'être mis en danger ?
Non, je ne pense pas. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que là, on parle de stablecoin dollar. On a entendu Jérôme Powell, le patron de la Fed récemment, dire que les stablecoins pouvaient tout à fait coexister avec des MNBC. Donc finalement, les annonces qui sont faites aux États-Unis ne vont pas dans le sens d'une exclusion ou d'une interdiction des stablecoins, pas du tout. Ensuite, dans la liste que vous avez citée, il y a des stablecoins centralisés comme l'USDT, comme l'USDC. Donc, eux, sûrement, qui verront une régulation, une réglementation un peu plus forte, un peu plus stricte arriver dans les années à venir. Forcément, plus le marché est mature, plus il va être réglementé. Après, on a des stablecoins décentralisés, c'est le cas du DAI ou de l'UST. Cela, ça va être très difficile de toute façon de les interdire. Alors, peut-être que certains États vont essayer de freiner leur adoption en les interdisant sur leur sol, mais finalement, techniquement, ça va être très compliqué d'interdire leur utilisation. Mmh. Dans tous les cas, aujourd'hui, ces stablecoins-là, ils sont basés sur le dollar. Donc, a priori, ça va surtout être les États-Unis qui pourront décider de ce qu'il s'y passe. À mon sens, on verra pas d'interdiction de ces stablecoins-là et je ne vois pas comment les MNBC pourrait les mettre en danger.
Bon, vous restez relativement sereine là-dessus pour l'avenir des stablecoins. L'écosystème, en tout cas, continue de se tisser. Twitter, d'ailleurs, sort de sa cage. L'oiseau Twitter bombe le torse. Il a récemment fait une démo qui vous a intrigué, intéressé peut-être. Démo indiquant qu'on pourrait peut-être bientôt connecter nos wallets directement sur Twitter. Pour faire quoi, Claire ? Qu'est-ce que cette initiative pourrait apporter concrètement ?
Alors plusieurs choses, déjà d'un point de vue très pragmatique, ça veut dire que si vous êtes un artiste par exemple ou si vous êtes une ONG, que vous avez un compte Twitter, vous allez pouvoir y mettre votre adresse crypto et donc vous allez pouvoir recevoir de la crypto très facilement, de manière très intuitive pour les utilisateurs qui n'auront pas à aller renseigner un RIB d'un compte bancaire. Ils vont simplement pouvoir vous envoyer de la crypto en cliquant sur deux boutons.
L'oiseau Twitter devient une poule aux œufs d'or. Bon. Non, c'est juste pour le jeu de mots, c'est complètement gratuit.
En tout cas, ça facilite l'expérience utilisateur pour aller donner de l'argent, pour aller tipper voilà, ses artistes préférés, par exemple. Et puis ensuite, on peut imaginer d'autres choses. Par exemple, c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de gens dans la communauté crypto qui vont mettre des NFT en photo de profil Twitter. On peut se dire que mettre leur adresse, ça permet de vérifier qu'ils possèdent vraiment ce NFT et qu'ils ne sont pas juste amusés à faire un petit copier-coller. Mais plus généralement, ce que ça montre, c'est que pour les acteurs du web, ça devient essentiel d'intégrer une brique de valeur, d'intégrer une brique de paiement. La crypto est tout simplement en train de devenir la brique de paiement d'Internet. Et c'est tout à fait logique, on s'y attendait depuis des années.
C'est passionnant à suivre. Owen, la suite, comment vous la voyez ? Que donnera la poursuite du développement des réseaux sociaux avec les crypto-monnaies ?
Alors, je pense qu'il y a une brique qui est très importante, qui est l'identité décentralisée. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on essaye de prouver son identité, c'est un mot de passe, un mail. C'est pas le chemin le plus sécurisé. Alors qu'on pourrait très bien, avec une clé privée de portefeuille crypto, s'identifier en prouvant que nous sommes bel et bien le seul détenteur de cette clé. Donc, je pense qu'à l'avenir, notamment dans le développement du web 3.0 qui est en train d'arriver et dont on parle de plus en plus, c'est-à-dire un web où on peut interagir, maîtriser encore plus la donnée que l'on laisse et les traces que l'on laisse de son interaction sur Internet, tout en contrôlant son accès et sa propriété différemment qu'avec des comptes à droite à gauche, ça ne m'étonnerait pas que les réseaux sociaux deviennent plus décentralisés. C'est-à-dire que si on veut rêver un petit peu, on pourrait imaginer des réseaux sociaux où quand on va se connecter, on aurait simplement à prouver, et là on pourrait du coup parler de NFT d'usage et pas de NFT artistique, on pourrait simplement prouver notre identité et accéder à un contenu ou à une plateforme en montrant que nous sommes bien en possession du NFT qui représente notre identité. De plus, ça pourrait permettre au site internet d'identifier les utilisateurs et de savoir que tel NFT représente bien un utilisateur qui remplit les conditions générales, qui a le droit de participer et d'interagir avec la plateforme et qui est, on va dire, conforme au règlement en vigueur qu'applique la plateforme, quoi, finalement. Et donc ça, c'est relativement intéressant parce que je pense que c'est vraiment une brique dont tous les usages n'ont pas encore été inventés, clairement pas. Je pense qu'on a simplement mis le doigt dessus. Mais on le voit, TikTok intègre du coup et commence à travailler en collaboration avec des projets de crypto-monnaie, notamment dans la musique. On a Instagram qui commence à voir pour intégrer les NFT à sa plateforme. Sans trop de surprise, parce que derrière, on a également Facebook qui a essayé de lancer son stablecoin et qui, en plus de ça, s'est renommé Meta, donc les métavers, donc une proximité avec le monde des NFT. Et on a Twitter, son fondateur qui a d'ailleurs quitté la plateforme pour se consacrer à ses entreprises crypto et qui a été une plateforme totalement crypto-friendly depuis le début. Rappelons que le premier gros bruit qu'avait fait Twitter, c'était simplement quand on écrivait Bitcoin, ça mettait le petit logo, c'était la toute première plateforme connue qui l'affichait et qui considérait pas ce mot comme un mot aléatoire comme un autre. Donc en fait, petit à petit, on sait que les réseaux sociaux vont se tourner vers cette tendance. On sait qu'ils vont proposer des solutions et proposer des interactions avec les outils décentralisés qui existent déjà aujourd'hui, mais c'est surtout, je pense, qu'on est dans une phase de proof of concept. On essaye, on va tester, quand on a un usage qui semble évident, on le propose, on voit comment la communauté réagit, et si elle l'adopte parce qu'elle trouve ça utile, on va forcément développer encore plus ce genre de solution et je pense que ce sera ce qu'on va découvrir dans les années à venir.
Vous êtes nos NFT à nous, nos talents non fangibles. Merci à tous les trois, vous nous accompagnez sur les pros des cryptos chaque semaine. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice Blockchain Crypto chez KPMG France. Owen, bien sûr, Owen Simonin, sa chaîne Hacher et sa société Just Mining. Et puis bien sûr, Vincent Gann qui nous accompagnait, analyste indépendant. Merci à tous les trois. Bon week-end et à la semaine prochaine. Le CAC 40, on va se reconnecter à la bourse et à la séance du jour en direct. Le CAC 40 est toujours en repli. On continue de digérer les resserrements monétaires à venir promis par la Réserve fédérale américaine. On s'en reparle dans un instant, dans moins de deux minutes, juste après la pause. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.